Enfin, de toute façon, je ne suis pas sûr d'avoir besoin de micro, mais bon.
Si, parce que ça enregistre.
Ah, ça enregistre. Alors, il faut que je fasse attention à ce que je dis. J'ai mis à l'écran un tableau d'un artiste pas de premier rang qui s'appelait Hendrik van der Borcht, un néerlandais, et c'est une nature morte avec des objets de collection. C'est vers 1700. Je m'aventurerai pas au XVIIIe siècle, j'ai déjà suffisamment de choses à dire pour les XVIe, XVIIe, mais je vais même commencer avant. Donc, je vais évoquer l'invention de la numismatique en tant que science, en quelque sorte, à partir de la fin du Moyen-Âge, et cette montée en puissance de cette science au XVIe et XVIIe siècle. Mais c'est une science méconnue. C'est une science méconnue qui existe toujours, bien sûr, qui est extrêmement spécifique, qui a pour objet l'étude des monnaies. Pourquoi étudier les monnaies? Évidemment, pour pallier les lacunes de notre documentation. Ce sont les spécialistes de l'Antiquité qui s'intéressent aux monnaies parce qu'ils essaient de faire feu de tout bois. Pour le Moyen-Âge encore, on en trouve, mais au fur et à mesure où on avance dans le temps, on a davantage de sources. Et à l'époque contemporaine, évidemment, il ne viendrait pas à l'idée des gens de travailler en dehors de quelques fêlés, sur les monnaies de telle ou telle région. On a suffisamment de choses à faire à côté de cela. Alors, à vrai dire, ces monnaies, c'est une source innombrable. Les monnaies ont été fabriquées en quantité considérable dès l'Antiquité. C'est à l'époque antique qu'elles sont nées. Ce sont les Grecs, ou c'est dans l'ambiance grecque qu'est née la monnaie, quelque part vers 600 avant Jésus-Christ. Et de tout temps, on en a découvert, dans les champs, dans la terre, sous forme isolée, de monnaie parfois dans un état déplorable, mais aussi sous forme de trésors. On en a découvert dès l'Antiquité, bien sûr. Les Romains découvraient des monnaies très anciennes ou des monnaies grecques. Certains Romains s'y sont intéressés, à ces monnaies très anciennes. Encore au Moyen-Âge, on en a découvert, on en découvre toujours. Il ne se passe pas de mois aujourd'hui où, dans quelques pays d'Europe, on découvre un nouveau trésor, par exemple, de monnaie. Alors, je voulais évoquer ça apparaît bien sûr, la numismatique aujourd'hui, ça a toujours deux aspects, la numismatique. C'est l'aspect hobby, des collectionneurs. La Bruyère a férocement décrit un personnage de numismate qui recherche, qui a ses planches avec tous les portraits des empereurs et puis qui est malade parce qu'il y a une lacune, il y a un empereur qui manque, etc. Alors il se moque de lui parce qu'il dit qu'il est complètement idiot, il ne cherche pas à savoir ce que ça veut dire, il ne cherche pas à savoir si ça peut alimenter une connaissance, une science, etc. Et à côté de cela, il y a la science elle-même. Personnellement, je connais bien les deux aspects parce que je suis un fils de collectionneur. Alors, je sais trop ce que représente dans la vie de quelqu'un un hobby de ce genre. Mais ça, c'est les monnaies. Ça pourrait être aussi autre chose, les coquillages ou plein d'autres choses. Vous voyez sur ce tableau qu'il y a à la fois des monnaies, mais aussi des petits objets, des intailles, des statues, choses de genre. Les collectionneurs n'étaient pas nécessairement autrefois spécialisés. Il y avait des gens qui collectionnaient un peu de tout. Et je vais essayer de brosser un peu l'évolution, le passage de ce... d'abord la naissance du hobby lui-même, et puis le passage du hobby à la science. Et je vais essayer de remonter... je ne vais pas vous parler longuement de l'Antiquité. On sait par exemple que l'empereur Auguste offrait des monnaies anciennes à l'occasion des fêtes du début de l'année, des monnaies anciennes qu'on trouvait belles. Je vais vous montrer quand même quelques monnaies antiques parce que, après tout, quand on parle de monnaie, on peut se dire qu'on a affaire à des choses rébarbatives. Eh bien, je vais vous montrer des monnaies grecques, par exemple. Alors, il faut que je retrouve, je suis obligé d'aller à la pêche, voilà. Des monnaies grecques, voilà, par exemple. Ce sont de véritables œuvres d'art. Voici un Apollon, un Lauré. Voici un Héraclès, je ne vais pas vous les détailler. Voici un dieu Pan. J'ai évidemment sélectionné les plus belles. Voici une Artémis de Syracuse, auréolée, environnée de dauphin. Voici encore une Artémis Arétus de Syracuse, représentée de trois quarts, ce qui est très exceptionnel et très difficile. Nous sommes là au 5e siècle, la fin du 5e siècle, avant Jésus-Christ. Hein. Évidemment, ces monnaies sont dans un état de conservation parfait. Voici une figure de Corée, hein, comme c'est écrit derrière, Coras, sous une forme dorique. Corée, qui est coiffée d'un épi de blé. Voici Jupiter, enfin Zeus, je veux dire, excusez-moi, Zeus. Et puis on peut continuer longtemps comme ça. Encore un. Voilà, encore Zeus. Un Zeus trônant, c'est une monnaie d'Alexandre le Grand, comme c'est écrit à droite, Alexandrou. Et Zeus trônant avec l'aigle dans la main et de l'autre le sceptre. Ce sont des choses qui peuvent être magnifiques, ce sont aussi des objets qui peuvent être lamentablement usés, oxydés, etc. Là, vous avez des monnaies de collection, bien sûr. Alors, les monnaies romaines, eh bien, c'est un peu la même chose. Voilà, par exemple, quelques monnaies romaines parfaitement conservées. Je me suis même limité aux monnaies de bronze ou de cuivre, hein, des portraits. Alors, d'un côté, dans les monnaies, vous le savez, il y a le droit ou l'avers. Et le revers de la médaille. On disait, à la Renaissance, on disait médaille. Pour monnaie, d'ailleurs, elle ressemble à des médailles. Ça semble être des médailles. En réalité, ce sont des monnaies qui circulaient. Il y avait des motifs qui rappelaient parfois des événements historiques, mais aussi beaucoup d'allusions à la vie religieuse, etc. Mais le terme est à peu près synonyme. Pour médaille et monnaie, c'est à peu près la même chose. Aujourd'hui, on utilise toujours, par exemple, à la Bibliothèque nationale de France, où se trouve la grande collection française qui remonte à Louis XIV, au sein de la Bibliothèque nationale, les monnaies sont conservées dans le cabinet des médailles. C'est le terme ancien qui est utilisé, de même que à Poitiers, les sociétés des antiquaires de l'Ouest s'appellent Société des antiquaires et ce ne sont pourtant pas des marchands de meubles. C'est le terme ancien. Et on ne l'abandonnera pas, en tout cas pas tout de suite. Donc vous voyez ces monnaies romaines avec des représentations, des scènes, par exemple une scène de discours de harangue de l'empereur à ses troupes ici. C'est toute une documentation imagée, iconographique, absolument unique, hein, et qui peut venir au jour comme ça, sous la charrue du laboureur, à n'importe quel moment, qui venait au jour à n'importe quel moment au cours des siècles. Alors le Moyen-Âge, comment considérait-il ces objets? Ben, il ne s'y intéressait pas. Pas vraiment. Alors il ne faut pas non plus caricaturer le Moyen-Âge. L'Antiquité, la connaissance de l'Antiquité n'avait pas entièrement disparu du Moyen-Âge, mais ces objets étaient des objets païens, à vrai dire. Et les gens du Moyen-Âge s'intéressaient à la monnaie à partir des textes sacrés. Alors il y a deux ou trois allusions dans les évangiles à des monnaies. Elles sont très connues. Il y en a une où le Christ évoque, on demande, vous savez, les Juifs demandent au Christ s'il faut payer l'impôt aux Romains. Et le Christ montre une monnaie, il dit de qui est l'inscription et l'image, et c'est l'image de César. Alors il dit, vous le savez, il faut rendre à César ce qui est à César, ce qui a évidemment entraîné des tas de commentaires quant à l'interprétation. Et puis l'autre moment où on trouve l'évocation de monnaie, c'est au moment de la trahison de Judas. Judas qui a vendu le Christ. Alors vous savez, ce sont les 30 deniers. Alors je suis retourné au texte grec, hein, puisque les évangiles sont en grec. Précisément, on ne dit pas denier, on dit 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent. Un Judas Iscariote alla trouver les grands prêtres et leur dit « Combien m'offrez-vous? Je suis prêt à vous le livrer. » Ils lui fixèrent un prix de 30 pièces d'argent, « tria conta arguria ». La note dans la Bible de Jérusalem, mais je ne sais pas, ils sont allés trouver ça, ça veut dire « c'est le prix d'un esclave ». Il y a déjà un commentaire... Ça, c'est dans saint Matthieu. Saint Marc, on dit, ils lui promirent de l'argent. Argurium et argurion, et dans la Vulgate latine, ça donne pecuniam, de l'argent. Et puis saint Luc dit de l'argent aussi. Voilà. Alors au Moyen-Âge, eh bien, on montrait dans plein de trésors de cathédrales et d'églises des deniers de Judas. Parce qu'évidemment, ce sont des reliques, alors on était friands de ça, on voulait le montrer, on voulait toucher du doigt, on montrait ça, et il y en a encore qui sont conservés, il y a beaucoup d'allusions dans les textes à de ces monnaies, dont certaines ont disparu. Ces monnaies, elles étaient conservées. Elles étaient parfois, on en prenait des empreintes en cire qu'on donnait aux pèlerins. Hein, pour, et alors, je vais vous donner quelques exemples. Il y avait, ici je retrouve, il y en avait un peu partout. Excusez-moi. Je ne les ai pas là, mais ce n'est pas grave. En tout cas, c'était ce qu'on sélectionnait, c'était des monnaies qui n'avaient aucune chance d'avoir été le denier de Judas. Alors, je vais vous montrer ce que c'était surtout. Il y a un type monétaire qui a été particulièrement en faveur dans ces trésors d'église. C'est, je cherche, voilà, Moyen-Âge, et on va faire ça. Voilà, c'est ça. Alors, vous avez, c'est en réalité une monnaie de Rhodes qui était considérée comme l'un des 30 deniers. Alors, on ne sait pas trop pourquoi, parce que c'est une jolie monnaie avec une tête auréolée de cheveux. Alors, c'est le dieu Hélios que vous avez. Là, vous avez en haut un dessin qui est tiré d'un ouvrage de 1553 d'un auteur qui s'appelait Rouille. Et en bas, vous avez la reproduction d'une monnaie réelle. Et alors, en fait, on se trompait. Vous voyez, ici, il y a la tête d'Hélios. Et au revers, il y avait une fleur ou une rose, et c'est un jeu de mots sur Rhodon, n'est-ce pas? Rhodon, c'est le mot que vous retrouvez dans Rhododendron, etc., etc. Et puis il y a une légende, enfin ici je crois elle est en dessous, mais elle a été mal interprétée. Ici vous voyez que sur l'ouvrage de Rouille il y a, alors en grec, Rhoaion, alors que c'est Rhodion, ça devrait être un delta ici. Alors on discute beaucoup, certains disent c'est parce qu'on a cru y lire Hérodion, Hérode, puis d'autres pensent que ça serait plutôt Romaion, de Rome. Mais le fait est que c'est une monnaie qui a été particulièrement en faveur, considérée comme denier de Judas. Il y a également, par exemple, dans le trésor de la cathédrale de Sens, il y avait un denier de Judas qui était un dirhem arabe. On ne savait pas que c'était un dirhem arabe. Bon, vous voyez, hein, c'était tout à fait approximatif, mais c'était la foi qui sauvait, bien entendu, ici. Alors, il y a également, il faut le dire, on conservait des monnaies, surtout les monnaies qui étaient en métal précieux, et on les montait souvent sur des reliquaires. Bon, c'était surtout les intailles et les camées antiques. Alors ça, on pourrait faire un inventaire, et ça serait infini, des reliquaires médiévaux qui comportent de ces pierres gravées ou taillées dessus. Ça avait une grande valeur intrinsèque, et en même temps, alors on ne prenait peut-être pas des intailles au sujet scabreux, encore que, par exemple, Sainte-Foy-de-Conques, il y a sur le reliquaire des intailles, il y en a toute une série, je pense que certains inventaires ont été faits. Et puis, on pouvait trouver des monnaies aussi. On en trouvait aussi sur des reliures d'ouvrages enluminés. Alors, je ne sais pas si j'en ai ici, j'avais dû en retenir quelques-uns. Oui, c'est toujours le Moyen-Âge, là, peut-être. Oui, voilà, c'est l'évangéliaire de Noyon. Alors, vous voyez, il y a des monnaies ici qui sont prises, enchâssées, hein, dans le... Je ne vois pas très bien, mais je crois que ce sont des monnaies antiques. Ce n'est pas nécessairement des monnaies antiques, ça peut aussi être des monnaies byzantines, etc. Si c'est en or, c'est encore mieux, bien sûr. Là, c'est... Alors, on les représente aussi. Vous avez, ici, ça c'est un évangéliaire enluminé sur lequel il y a des reproductions de monnaies. Bon, ce n'est pas des monnaies antiques. Bon, manque de chance, parce que ce n'est pas aussi fréquent que les vraies monnaies enchâssées sur des reliquaires. Mais vous avez ça. Et puis c'est tout, parce que pour le reste, eh bien, on ne s'y intéressait pas trop. Si un trésor était découvert, de toute façon, il y avait un problème de propriété qui se posait. Et en général, c'était le seigneur du coin qui récupérait le métal. Mais il faut dire aussi quand même une chose, c'est que la monnaie antique est aussi porteuse d'une symbolique profane qui concerne l'Église en partie. C'est l'idée de la romanité. C'est la romanité. C'est-à-dire que l'Empire romain, en réalité, n'est pas mort avec la chute de Rome en 476, sous les coups du chef Hérule Odoacre, mais s'est poursuivi. Il s'est d'ailleurs poursuivi l'Empire romain en Orient à Constantinople, sous la forme de ce que nous appelons l'Empire byzantin, mais eux, ils ne s'appelaient pas du tout Empire byzantin. Ils disaient « on est les Romains de langue grecque ». Là. Et puis l'idée romaine s'est perpétuée, elle a ressuscité à plusieurs reprises, d'abord avec Charlemagne en 800, puis avec Othon au Xe siècle, et là c'est le Saint-Empire romain germanique, et c'est Napoléon Ier qui a mis un terme, vous le savez, au Saint-Empire romain germanique en 1806, parce qu'il ne supportait pas qu'il y ait un l'empereur, n'est-ce pas, l'empereur du Saint-Empire était l'empereur unique en Europe, et Napoléon étant empereur des Français, il n'a pas supporté qu'il y ait un empereur avec un grand E. Il a transformé l'Empire en Confédération germanique et le Habsbourg qui régnait à l'époque est devenu empereur d'Autriche simplement. Il y avait plusieurs empereurs en Europe, un empereur de Russie, un tsar de Russie, un empereur d'Autriche et l'empereur des Français. Alors, pendant tout le Moyen-Âge et une grande partie de l'époque moderne, les empereurs du Saint-Empire se sont considérés comme les successeurs des empereurs romains. Et ils ont utilisé parfois des objets... Et ils ont fait des objets antiques comme sceaux, comme symboles de leur pouvoir. Et ils ont fait parfois des emprunts dans leur propre monnayage, dans leur propre numismatique, à une iconographie directement héritée de l'Antiquité. Alors Charlemagne, le premier, Charlemagne, dont les Français pensent qu'il est un empereur franc, français, alors que c'est faux, bien entendu. C'est l'empereur des Francs, mais... Alors voilà une monnaie de Charlemagne. Eh bien, vous voyez un portrait ici, qui est un portrait totalement à la romaine. Il est coiffé d'une couronne de laurier. Il a une cuirasse et un manteau militaire à la romaine noué sur son épaule droite. Tout est tourné vers la droite. Alors, ce qu'il a de pas trop romain, c'est sa moustache. Mais la légende dit « Carolus imp aug »« Carolus imperator Augustus ». Et là aussi, dans l'inscription, c'est la terminologie romaine. Et au revers de cette monnaie, vous trouvez... Alors la monnaie a été frappée à Francfort, après 1804. Vous avez là, au revers de cette monnaie, une légende qui dit « Christiana religio », la religion chrétienne, et qui représente quelque chose qui ressemble beaucoup plus à un temple païen qu'à une église chrétienne, sauf qu'il y a une croix dedans, une croix au-dessus, une croix dedans. Donc vous voyez quelque chose qui se rattache directement. C'est pas... une habitude qui va s'enraciner très profondément, mais on a ainsi quelques objets de ce genre tout à fait intéressants. Alors, c'est très nouveau, hein, parce que, par exemple, les Mérovingiens, vous faisaient ça. Mais ça, c'est une pièce d'or mérovingienne, mais ça dérive des images romaines. C'est simplement dégénéré, si je puis dire. Ce sont des dessins qui ont été... c'est une tête, c'est un personnage avec une tête, avec un diadème, etc., et puis au revers, il y a un symbole. Bon, on va passer. Et je veux vous montrer encore, voilà, le sceau de Charlemagne. Le sceau de Charlemagne servant à valider ses diplômes. Et ce sceau, en réalité, représente Antonin le Pieux. Bien. Mais c'est une pratique qui va durer longtemps. Le prince noir, à la fin du Moyen-Âge, se servait d'une entaille antique représentant Hercule pour sceller ses documents. Enfin, ils n'étaient pas nombreux à le faire, mais lui, il s'intéressait à ça. Il trouvait l'image jolie, il trouvait ça... ancien, etc., et c'était bien. Donc voilà. Il y a même des endroits... Alors il y a des endroits aussi, on a continué à utiliser des types monétaires antiques pour fabriquer des monnaies médiévales. Là, nous sommes en Sicile. Nous sommes en Sicile au XIIe siècle. Il s'agit en bas d'une monnaie sicilienne d'un roi de Sicile, de ces rois, vous savez, qui étaient descendaient des Normands. Les Normands de Sicile, c'est un Guillaume II de Sicile, 1166-1189. Eh bien, et sa monnaie imite un tétradrachme d'argent de Régione, une ville grecque de Régione, c'est pas en Sicile, mais c'est en face, hein, c'est Reggio de Calabre, et qui date de 445-455 avant Jésus-Christ. Cette tête de lion ici, elle est là. Mais c'est rarissime aussi. Bon, enfin, c'est un exemple. On est en Sicile. On est chez des gens civilisés. On n'est pas chez les Francs, etc. Alors voilà. Sinon, alors, la numismatique médiévale, c'est plutôt quelque chose qui ressemble à ça. C'est-à-dire que vous avez là un châtel. Un châtel, et puis la croix, et puis des légendes qui sont difficiles à lire, d'ailleurs. Ce n'est pas du tout la clarté des monnaies romaines, évidemment. Je vous montre quelques exemples de ces monnaies médiévales. J'en ai quelques autres. Ah oui, ça, par exemple, regardez au Moyen-Âge, ce qu'on faisait, ça, c'est une tête. Hein, vous voyez les lèvres, le nez, l'œil, la couronne derrière, c'est une tête avec le châtel derrière, c'est de la région de Vendôme. Voilà. Alors, il y a aussi un autre épisode où un personnage a fait frapper des monnaies extraordinaires, des monnaies à la romaine. Voici Frédéric II de Hohenstaufen. qui est un des empereurs du Saint-Empire, qui fait frapper ça en Italie du Sud. Il a séjourné beaucoup plus souvent en Italie du Sud qu'en Allemagne. Et c'est ce qu'on appelle les Augustales. Il se fait représenter, c'est un empereur du XIIIe siècle. Je dis une bêtise ? Non, tu sais pas. Attends. Je vais retrouver. Excusez-moi. Oui, c'est 1231. 1231, c'est une Augustale. Il est représenté en empereur romain. Alors, c'est pas un portrait. En fait, c'était pas vraiment un portrait. C'est idéalisé, mais il est vraiment en empereur romain. Et il y a, je retrouve plus le sens. Il y a César. Je le lis pas. Il doit y avoir Fridericus ou quelque chose comme ça. César Aug. Et le revers, je ne vais pas chercher, je ne vais pas insister parce que j'ai passé trop de temps, mais le revers, c'est ça. Alors évidemment, c'est un aigle, c'est pas tout à fait un aigle romain ou une aigle romaine, comme on disait, mais quand même, c'est quelque chose qui porte un message. Vous savez, Frédéric de Hohenstaufen, c'est un très grand empereur. C'est cet empereur qui était, sur le plan religieux, tout à fait ouvert, même à l'islam, dit-on. Bien. On a fait un petit peu le tour là, alors, de ce Moyen-Âge. Alors voilà, on va passer au temps nouveau. Vous savez que le Moyen-Âge, finalement, en Italie, il dure pas très longtemps parce que la Renaissance italienne, elle commence très tôt. La Renaissance italienne, elle commence lorsque un certain nombre de gens se sont intéressés à la recherche. D'abord, ils vivaient dans l'Antiquité, les Italiens. Les ruines antiques sont omniprésentes. Il suffit de voyager en Italie pour le savoir. Elles sont omniprésentes tant qu'ils les avaient sous les yeux, et pendant très longtemps, on considérait que c'était antique, païen, etc. Et puis, à un moment donné, où des gens se sont posés des questions sur ces textes, on a retrouvé des manuscrits, on a commencé à se réunir pour les commenter, etc., etc. Et puis, on a retrouvé aussi des monnaies. Et on a commencé, à partir du XIIIe, XIVe siècle, à collectionner ces monnaies. On les a collectionnées parce qu'elles étaient une illustration parfaite de l'histoire, de la grande histoire. Ces monnaies sont des symboles régaliens qui émanent directement du pouvoir. Les portraits d'empereurs en particulier sont des portraits de personnages réels, réalistes, qui permettent d'illustrer Tacite, Suétone, qu'on est en train d'étudier de très près. Et les collections ont commencé. Des collections, pour le plaisir de collectionner, des collections de bourgeois, mais aussi de princes. Beaucoup de princes ont collectionné des monnaies. C'est d'abord parce qu'ils avaient ce privilège de confisquer les trésors quand on les découvrait, et d'autre part, ils achetaient. C'était parfois des monnaies d'or, c'était des choses qui avaient une assez grande valeur, une valeur au poids, bien entendu, à l'époque. Hein. Bon, on ne savait pas, on ne connaissait rien de la rareté de ces choses, il n'y avait pas un marché comme le marché actuel moderne, où ces objets, je ne sais pas ce que ça devient dans la crise actuelle, mais ça prend des proportions extraordinaires. Et donc, on a des collectionneurs. Alors, je ne vais pas vous les énumérer, il y a des noms illustres, les papes, les cardinaux. Les souverains de l'Italie qui sont nombreux, les rois de Naples, les princes de Florence, bien sûr, des princes moins importants mais extrêmement connus, des princes humanistes de Ferrare ou d'Este. Venise était une république, mais les nobles de la République de Venise commençaient à se constituer des collections, etc., etc., etc. Et quelques exemples. Alors c'était des amateurs. Boniface VIII, par exemple, au début du XIVe siècle, collectionne camées et intailles antiques. C'est le moment où on commence à s'intéresser à l'Antiquité, à déchiffrer les inscriptions. Hein. Alors au même moment, on ne s'intéresse pas qu'à ces petits objets, on s'intéresse aussi au droit romain, on s'intéresse aussi un tout petit peu à l'architecture. Et puis, donc, Boniface VIII recueille les médailles, les pierres gravées... non pas pour décorer, mais comme les produits d'une civilisation antique, païenne. On savait bien que c'était païen, mais c'était intéressant. Et alors, le grand nom qu'il faut citer dès maintenant, c'est Pétrarque. C'est le nom de Pétrarque, 1304-1374. C'est lui qui a produit les premières études critiques sur la numismatique antique. Celui qu'on a qualifié de premier homme moderne, mais enfin, il y en a d'autres qui ont mérité ce nom. Mais là, ça remonte quand même très haut. Ce prince des humanistes était un passionné de l'Antiquité Et il étudie la littérature, bien entendu, il essaie de remonter aux sources, il s'intéresse aux monuments d'Italie et du Midi de la France, vous savez, c'est l'époque où la papauté est à Avignon. Je rappelle que Pétrarque, c'est aussi la description de l'ascension du Mont Ventoux, etc. Et de son temps, il y a d'autres célébrités qui s'intéressent à cela. Alors pour d'autres raisons, par exemple, le tribun romain Rienzi, Colla di Rienzi à Rome, à le culte des inscriptions, des manuscrits antiques, pour des raisons politiques, hein, parce que lui, il veut faire pièce au pape. Les textes lui servent à démontrer que la République romaine, c'est quelque chose, que le peuple de Rome, c'est quelque chose. Hein. Il ne comprend pas tout. Dans les inscriptions, à l'époque, quand on le découvre, on ne comprend pas tout, on ne lit pas tout, parce que c'est en abrégé, mais au moins, tout le monde s'intéresse à ça. Et que nous dit Pétrarque, lors de ses séjours à Rome, il dit qu'il achète les médailles que les paysans lui apportent. Et il déchiffre avec émotion les légendes de ces, sur les médailles, les noms des empereurs. Il l'explique aux gens, parce qu'il y a des gens qui lui apportent des choses pour dire « qu'est-ce que c'est que ça ?» etc. Bon. Et il forme une collection dans un but artistique et scientifique. Et lorsqu'il rencontre l'empereur Charles IV, un empereur du Saint-Empire, car il faut se rappeler aussi que les empereurs du Saint-Empire passent leur temps à circuler entre l'Allemagne actuelle et l'Italie, puisque tous ces empereurs vont se faire couronner empereurs à Rome. D'ailleurs, ça, c'est souvent cuisant, leur débarquement en Italie, parce qu'il y a des gens qui sont hostiles à ça, il y a des clans qui sont... Enfin, c'est l'histoire des Guelfes et des Gibelins. Ça donne des guerres. Les armées allemandes qui descendent repartent avec la peste ou toutes sortes d'autres maladies. On nomme des antipapes, etc. Je ne vais pas entrer dans cette histoire, qui est malheureusement méconnu en France, parce que c'est de l'histoire allemande, germanique, etc. Ça, on apprenait ça quand j'étais jeune au lycée, mais plus trop maintenant. Enfin, on l'apprenait dans le détail. Hein. Par exemple, Canossa, Henri IV, qui va s'humilier à Canossa devant le pape, etc. Bon. Eh bien, donc il y a un va-et-vient, là. Il y a un va-et-vient, et... donc Pétrarque offre une médaille romaine en or à l'empereur Charles IV. Hein, donc il l'incite à faire collection. Puis il lui dit, là, c'est un empereur, hein, c'est votre prédécesseur, c'est ton prédécesseur, ça, hein, il faut être comme lui, il est beau, etc. Bien. Et puis il rapproche aussi les monnaies des textes. Par exemple, il cite un passage de Suétone qui est relatif à Vespasien, il rapproche des monnaies, ce passage, des monnaies de Vespasien, c'est formidable, on a le portrait. Parce qu'il y a des moments de l'histoire, on aimerait bien avoir des portraits. Je ne sais pas, moi, sur l'histoire de la Gaule, par exemple, bon, pas vraiment de portrait de Vercingétorix. Ben, les empereurs romains, on les a tous. Bien. Alors en France, par exemple, au même moment, Jean de Berry. Ici, nous parlons d'un quelqu'un qui a été notre compatriote, en partie. Jean de Berry, 1340-1416, le frère de Charles V, avait, dit-on, une grande collection de monnaie. Alors, il n'existe plus. Mais on en a une description, car on commence à décrire aussi ses collections. Alors, par exemple, dans la description de sa collection, il y a, sous le numéro 195, un grand denier d'or bien pesant, auquel est contrefait au vif, c'est-à-dire reproduit au vif, le visage de Julius César, garni en tour de 4 saphirs et 8 perles, pendant à une chaîne ployant où il y a 2 perles, etc., etc. Bon, il y avait un certain nombre de choses comme cela. Dans la première moitié du XVe siècle, le nombre des collectionneurs s'accroît. Ces collections ont disparu le plus souvent. Hein. C'est un des problèmes, bien sûr. Alors, il y a des choses très amusantes, si je puis dire. C'est que quand on a une collection de monnaie, et ça, les archéologues le savent bien lorsqu'ils veulent stocker des monnaies, si je puis dire, c'est très difficile de marquer les monnaies. On ne peut pas écrire dessus, etc. Alors, il faut mettre ça dans des sachets, on écrit sur le sachet, etc. Eh bien, Lionel d'Este, le marquis d'Este, en 1430, avait trouvé un système. Il avait fait fabriquer un petit poinçon avec l'aigle d'Este Ferrare, et il faisait donner un petit coup de poinçon sur la monnaie elle-même, et ça marquait son droit de propriété sur la monnaie. Ça voulait dire que ça appartenait à sa collection. Ces monnaies sont rares, ces monnaies sont des documents d'histoire. Bon, ça abîme la monnaie, bien sûr, mais enfin, là, c'est un moment de l'histoire. Hein. Alors, je ne vais pas vous énumérer, ça serait toute l'Italie qu'il faudrait citer, c'est les collections de Florence, hein, des princes, de Côme de Médicis, par exemple, ou les Médicis, c'est aussi les collections des humanistes, je pourrais citer des très grands noms. À Naples, ce sont les rois, le roi Alphonse d'Aragon, qui avait un beau médaillé d'ivoire. Alors on fabrique des meubles en même temps. On fabrique des meubles. Alors, je vais vous en montrer. Ça y est, je suis perdu. Qu'est-ce que je fais là? Voilà. Médaillé. Des médaillés. Voilà. Ah, voilà un beau. On fabrique des magnifiques meubles avec des planches à l'intérieur où on classe les monnaies. Hein, voici un meuble en marqueterie. Alors ça, ce sont surtout des meubles allemands que je vais vous montrer, mais il n'y a pas que ça. Par exemple, alors là, on passe vers le XVIIe siècle. Hein. Bon, alors, au XVIIe siècle, ça devient des meubles. Vous voyez ici le médaillé de Maximilien de Bavière au moment de la guerre de 30 ans. Alors il y a des sculptures, etc. Et parfois, ces meubles sont décorés eux-mêmes de monnaie. Voici par exemple un motif qui date du XVIe siècle, qui représente l'empereur Trajan. C'est une imitation, en quelque sorte, sur un médaillé qui se trouve aujourd'hui au musée de Münster. C'est intéressant parce que c'est un médaillé qui a été pris par les Suédois lors de la guerre de 30 ans. Alors c'est ce qu'on appelle le Wrangelschrank. Wrangel était un général de Gustave Adolphe. Les Suédois ont fait une razzia de toutes les richesses de l'Allemagne et on a transporté ça en Suède, mais maintenant c'est revenu en Allemagne au musée de Münster. Il y a une publication récente que je n'ai pas eu le temps de regarder, mais c'est un aspect tout à fait passionnant de ces choses. Bien, le roi Alphonse d'Aragon collectionnait, il avait un médaillé d'ivoire dont, dit-on, il ne se séparait jamais, et pour lui, la vue de ces médailles était un puissant aiguillon qui l'excitait à imiter les vertus de ceux dont elle représentait l'image. René d'Anjou, le bon roi René, la même chose, il avait probablement des médailles, il avait des monnaies, il possédait des œuvres antiques, des intailles, tout ce que vous voulez, les empereurs, Maximilien Ier, le roi de Hongrie, Matthias Corvin, on n'en finirait pas, on n'en finirait pas de les citer. Bien. Une nouveauté va apparaître là-dedans, l'invention d'imprimerie. C'est-à-dire toutes les réflexions qu'on a pu mener sur les monnaies, parfois tout à fait anodines, oiseuses, ou alors les catalogues de collection, ben, elles sont souvent conservées sous forme manuscrite. Alors, je vais vous montrer un manuscrit du XVe siècle, un manuscrit qui comporte des monnaies, un manuscrit d'un humaniste obscur italien, voilà. Il ne veut pas apparaître, si. Voilà. Voilà, c'est une histoire romaine, et vous avez des dessins de monnaie dans les marges. C'est-à-dire qu'il a fait une histoire en latin, une histoire des empereurs romains, et il illustre... Bon, les dessins ne correspondent pas à grand-chose, à vrai dire. C'est-à-dire qu'il a fait des dessins qui ne sont pas très, très fidèles, mais les légendes des monnaies sont bonnes. Hein, les légendes sont bonnes ici. Alors, avec l'imprimerie, à la fin du XVe siècle, on va pouvoir... tabler sur avoir des travaux. Si les collections ont disparu, les livres existent. Et il y a des traités qui ont été écrits et imprimés. Alors, certains personnages illustres se sont intéressés à la monnaie. C'est vrai qu'à l'époque, il n'y a pas grand-chose à dire sur la monnaie. La monnaie, ça sert à illustrer. Donc, l'idéal, c'est quand on traite des empereurs, on met des monnaies pour... on reproduit des monnaies pour montrer le portrait. Mais il y a des traités quand même, beaucoup plus scientifiques au sens actuel du terme, et Guillaume Budé, hein, l'helléniste, ami de François Ier, professeur au Collège de France, des tout débuts, qui était né à la fin du XVe siècle, qui est mort en 1540, a publié un traité sur l'as romain, c'est en latin, hein, de l'as et de ses parties. Alors c'est un traité en fait pas de numismatique, mais de métrologie. C'est un traité qui est paru en 1514, c'est de la métrologie numismatique. Il a mérité pour cette publication, sous la plume d'Erasme, le surnom de prodige de France. Bien. Mais son influence a été assez faible, à vrai dire. Alors, je vais vous montrer quelques exemples de ces livres que l'on a, qui nous sont parvenus. Là, voilà. Ces traités, ces nombreux traités... Bon, je vais les montrer peut-être dans le désordre. C'est pas très grave. Voilà. C'est pas là. Pardon. Voilà. Alors, on va voir, on va en passer un certain nombre, voici, avec des gravures, hein, avec des gravures. Ça, c'est un prélat espagnol qui s'appelait Augustinus, archevêque de Tarragone. Donc, il publie des dessins de monnaie antique. Alors, gros problème, hein, les graveurs régularisent. Donc, on prend un compas, on fait un cercle, puis on dessine dedans. Évidemment, ça ne nous intéresse pas, nous, spécialistes, aujourd'hui, parce que ça ne permet pas de créer la carte d'identité de la pièce. Hein. Mais bon, là, vous avez, là, ici, d'ailleurs, des monnaies juives. Il y en a eu quelques-unes, antiques. Alors, ça intéresse beaucoup, bien sûr. Et puis, ici, vous reconnaissez la tête du dieu Hélios, interprétée, bien sûr, sur ce traité d'Augustine. Je vais vous montrer, alors, voici voilà. Voilà ce qu'on fait, vous voyez ça, on est dans un livre de Enea Vico, c'est un savant italien, et lorsqu'il publie un traité, et il fait une biographie des empereurs, et là il traite de Tibère. Alors il dit que c'est en italien, là, Fu Tiberio di corpo grande, etc., etc. Et puis à côté, alors c'est présenté évidemment avec le portrait au-dessus, puis à côté vous avez des monnaies de Tibère. Et là on peut en montrer toute une série de ces ouvrages. Alors voici... Ça c'est Fulvio. Ça c'est j'ai oublié son nom. C'est Andrea Fulvio. Alors vous avez par exemple au-dessus d'un texte, dans un encadrement très élaboré, vous avez la reproduction de ces monnaies, de ces très anciennes monnaies romaines qui sont les as à la tête de Janus. Janus à double tête. Mais c'est tout sauf réaliste, enfin, par rapport. Simplement, ça ressemble un petit peu, mais bon, ils sont pas cette forme exactement cette forme. Alors ça c'est Cléopâtre, mais je vous mets au défi de retrouver dans la numismatique antique une monnaie de Cléopâtre où Cléopâtre est cette tête-là. Parce que le problème c'est que les graveurs s'amusent à embellir ou bien imaginent des portraits, des monnaies qui n'ont pas existé parce qu'il faut bien illustrer. Voici par exemple, alors là c'est Aurelia Mater, c'est la mère de Caesaris Dictatoris, du dictateur César. Ben voilà, alors là, on n'a absolument aucun portrait d'elle. Puis vous voyez qu'elle a quand même une coiffure qui n'est pas très antique. Hein, voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup de textes hein, sur la mère de César. Enfin, il fallait faire un petit texte sur la mère de César, voilà, on l'a fait. Alors voici par exemple... Caius César Dictator, alors là c'est plus fidèle parce qu'on a des portraits monétaires, vous voyez derrière il y a le Litius de l'augure, comme sur ces monnaies, et puis l'étoile parce que c'est emprunté à une monnaie où il est divinisé, donc vous savez qu'on a vu apparaître un astre, une comète au moment de ces obsèques. Alors ça c'est Brutus, bon Brutus on a quelques portraits, c'est vrai, parce que Brutus au moment de sa fuite il a fait frapper monnaie en Orient, même des monnaies d'or, on a quelques portraits, c'est vrai. C'est pas situé, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cet Andrea Fulvio, il mène son récit jusqu'aux empereurs du Saint-Empire. Voici Henri III, c'est pas du tout Henri III de France, c'est Henri III, un empereur du Saint-Empire, et Conradus Augustus. Alors là, les portraits sont complètement inventés parce qu'on n'avait pas de portraits, que les monnaies de ces empereurs, qui sont des empereurs du Moyen-Âge, ne comportent pas de portraits. Et là, on fait l'historique. C'est la suite des empereurs romains qui se perpétue dans le Saint-Empire. Hein. Voilà. Alors, en voici encore. Alors, ça, c'est très amusant, parce que c'est le portrait de Caton, Andrea Fulvio, portrait de Caton, ça, on ne sait pas à quoi il ressemblait. Et ça, c'est le portrait de Berengarius. Berengarius, si je me souviens bien, c'est un roi des Lombards. Là aussi, on ne sait rien. Donc, on l'a totalement inventé. Bien. Alors, que puis-je vous montrer d'autre? Les traités se multiplient, ils sont souvent fantaisistes. Alors voilà, Guillaume Rouille. Guillaume Rouille, il traite d'Alexandre, mais il met des médailles qui n'ont jamais existé. On a pourtant des médailles d'Alex, des monnaies d'Alexandre qui n'ont jamais existé. Il a fait, puis il met la légende ici, puis ça, voilà, c'est Alexandre, c'est bon, et les gens sont contents. C'est l'époque aussi où on invente, vous savez, ces rois... Pharamon en France, ses rois, prédécesseurs des Mérovingiens, et on n'hésite pas à créer des portraits aussi de ces rois. Voilà ici Aspasie, parce qu'il y a Aspasie et Périclès. Il n'y a jamais eu de monnaie comportant les portraits de Périclès, et encore moins d'Aspasie, qui était la maîtresse de Périclès. Bon, il faut bien illustrer. Alors on fait ça. Hein. On ne se gêne pas. on a des bustes de Périclès, hein, des bustes de Périclès, mais pas de monnaie. Dans une cité grecque, on ne représente pas les hommes politiques, les magistrats. Ce que je vous montre, Noé. Voilà, Noé. Hein, Noé sur des bonnets, voilà, allons-y. Alors, ah, parfois on se trompe totalement, hein, même à la Renaissance, regardez. Regardez ici un dessin qui est emprunté à l'ouvrage de Rouille, un ouvrage de Rouille, et puis la monnaie qui a servi de modèle. C'est une monnaie d'une cité grecque de Sicile, de la cité de Géla, qui représente une espèce de taureau à tête humaine. Et bien là, on a fait un dessin, enfin il est tourné dans l'autre sens, c'est pas très grave, et on a écrit Minotaurus, le Minotaure. C'est pas du tout le Minotaure, puisque ce taureau à tête humaine, c'est en fait, on pense, le dieu fleuve du coin, le dieu Gélas. Bon, bah, on s'est trompé. Même le grand Érasme, alors je vais aller le retrouver là parce que sinon je vais l'oublier. Voilà, même Érasme s'est trompé. Voilà, ici, voilà une monnaie qui est une monnaie de la République romaine qui représente une tête féminine avec Libertas derrière, la liberté. Et là, vous avez Brutus écrit en dessous de la ligne de sol et vous avez quatre personnages qui marchent. Alors, ce n'est pas cette monnaie précisément que Érasme a commenté, mais c'est une monnaie d'un prince d'Ace, qui avait imité lui-même la monnaie républicaine romaine. Et alors, voilà, il s'appelait Cotizone ou Cozone. Vous avez non pas quatre personnages, mais trois. Et alors, un aigle de l'autre côté. Et Érasme, il dit, ben voilà, c'est Noé. Et puis ça, c'est la colombe. Vous savez, de l'arche. Au moment où l'arche s'approche de terre, il y a une colombe qui apporte une branche d'arbre. Et donc, Érasme se trompe totalement, mais il ne pouvait pas savoir. De toute façon, il n'avait pas, même pas la monnaie de Brutus, il avait une imitation. C'était la monnaie de ce principicule d'As du nom de Cotizone. Et il ne pouvait pas savoir. Enfin, ça ressemble quand même pas à une colombe ici. Bien. Alors, vous avez aussi des travaux, alors des choses absolument magnifiques, pardon, ce sont les travaux de les traités ici, voilà, traités de numismatique. Voilà, c'est les travaux les travaux de Hubert Goltzius, qui est à la lettre G, voilà. Alors Goltzius, lui, il publie, c'est un flamand de Bruges. Il publie un ouvrage sur César Auguste et puis Imperatorum Caesarumque for Romanorum et antiquis, etc. Ex antiquis numismatibus. C'est une histoire de César Auguste et des empereurs à partir des monnaies romaines. Et il illustre son traité, ça c'est la page de garde. Et dans son ouvrage, il donne la liste de 900 collectionneurs de monnaies en Europe. Et il a dû voyager en Europe, et j'ai pu consulter cet ouvrage parce que le fonds ancien de la médiathèque de Niort le possède. J'ai relevé ces noms, j'ai essayé d'identifier. On peut les identifier, mais c'est pas simple. C'est des grands noms, hein. Quand il est à Paris, c'est Catherine de Médicis, etc., etc. Il passe par Poitiers. Il y a deux noms que j'ai pas pu identifier, qui sont en latin, évidemment. Alors on discute beaucoup de cette liste. Un article a été publié il y a longtemps pour dire que c'était une sorte de wouswou. Certains pensent que c'était peut-être une publicité pour un appel à la souscription, parce qu'il y a des incompatibilités chronologiques. Quand il passe à Douai, il cite deux professeurs qui ne peuvent pas être professeurs à ce moment-là. Enfin, il y a une histoire compliquée. Mais il est allé quand même jusqu'à Naples, jusqu'à Rome, et il a vu, semble-t-il, toutes ses collections. Plus de 970 collections, Hubert Goltzius. C'était vraiment un fanatique. Et alors, comme il s'appelle Hubertus, il invente un motif. Ce motif, c'est l'Uberitas. Il retrouve sur les monnaies romaines l'Uberitas, qui est la divinité qui veut dire un des noms de l'abondance ou de la surabondance. Vous savez, exubérant. Hein, dans exubérant, c'est ce qui est. Et alors, il la reproduit parce qu'il fait un jeu de mots sur Hubertus. Hein, Hubertus, qui n'a rien à voir avec l'Uberitas, c'est comme ça. Et ça me fait penser à quelque chose aussi, c'est pour vous montrer que la monnaie, elle est dans tous les esprits. Elle est dans tous les esprits. Voilà par exemple une chose, voilà, je vais le retrouver, il y a une chose extrêmement connue, c'est ça. C'est l'emblème des Manus, des dalles de Manus, qui est un imprimeur illustre de Venise et qui a emprunté son emblème, qui représente une encre avec un dauphin, il l'a emprunté au monnayage romain. C'est un humaniste qui l'a fait découvrir ça sur une monnaie de Titus, sur le revers d'une monnaie de Titus. Alors il faut savoir aussi qu'il y a des gens qui se passionnent pour ces objets et qui s'intéressent aux emblèmes. Alors ce sont surtout des Italiens, mais pas seulement, et ils publient des ouvrages, des traités sur les emblèmes parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y a des tas d'images comme ça qui ne sont pas compréhensibles directement. Mais d'abord ce sont les hiéroglyphes, par exemple, les hiéroglyphes égyptiens qu'on peut voir en Italie sur les obélisques transportés dès l'Antiquité à Rome. Et ils pensent que c'est une sorte de langage par excellence, une sorte d'écriture par excellence. Et donc ils vont reproduire les animaux hiéroglyphiques, etc. Mais ils vont aussi chercher sur la monnaie des symboles figurés qui ne sont pas immédiatement compréhensibles et qu'ils réinterprètent à la lumière de toute une symbolique, hein, une symbolique. Et ça a eu un succès absolument considérable dans toute l'Europe, ces ouvrages imprimés, qui au fond... était constitué une espèce de jeu aussi, en cercle fermé un peu. Hein, quand on découvre ce que veulent dire certaines images antiques, on a des surprises, bien sûr. Donc on est très familier de ces choses-là. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Je peux vous montrer des... Pour illustrer cela, je vais passer... Ah oui, alors, pour vous montrer que tout ça est extrêmement présent... Voilà par exemple une monnaie antique qui est une monnaie qui célèbre l'assassinat de César. Voilà. C'est une monnaie, d'un côté vous avez la tête de Brutus, c'est pour ça que je vous disais qu'on la connaît bien, l'un des assassins, qui n'était pas un gangster, hein, c'était un aristocrate romain et un sénateur. Et puis derrière vous avez deux poignards, le bonnet de liberté, d'affranchissement, et puis la légende « Aide Mar » pour les Ides de Mars. Eh bien, que trouvons-nous en France au XVIe siècle? Nous trouvons ceci. À l'époque d'Henri II, c'est une proclamation d'Henri II à destination des princes allemands au moment où Henri II s'est emparé des trois évêchés. Henri II avait la prétention, le roi de France avait la prétention, de donner la liberté aux princes allemands contre les Habsbourg. Et donc vous avez « Libertas » et vous avez... Les poignards, alors ils ont la pointe tournée vers le haut cette fois-ci, hein, et ça a été écrit en latin et en allemand. 1552, exactement à ce moment. Enfin, c'est pas extrêmement fréquent, mais ça c'est très frappant qu'on ait emprunté là cette chose. Alors, je veux vous montrer aussi des objets sur lesquels on montait des monnaies antiques. Alors, c'est assez kitsch. Voilà, au XVe siècle, c'est un objet en terre sigillée gallo-romaine, enfin romaine, pas forcément gallo-romaine d'ailleurs, parce que c'est... Non, c'est en Allemagne du Sud, c'est sans doute gallo-romain, on va dire. Et puis vous voyez, on a monté des monnaies, on a mis des petits trous. Hein, c'est des monnaies antiques, pour faire des petits trous comme ça. Là, vous avez, par exemple, un magnifique plat du premier quart du XVIe siècle avec toute une série de monnaies antiques qui sont insérées dedans. Je pourrais les multiplier. Voilà encore un bijou de 1534 Nuremberg. C'est très fréquent en Allemagne du Sud, avec des pièces antiques qui sont montées sur ce vase très spectaculaire. Ça a continué très longtemps. Ça, c'est au XVIIIe siècle. Il y a une monnaie de Vespasien ou de Titus ici. Il y a une monnaie de Constantin, etc., que vous dire encore, les monnaies, regardez ici, ça c'est un cadeau qui a été fait pour le baptême du fils de Luther. C'est une pièce de la basse antiquité qui a été montée dans une monture sur laquelle on a écrit, alors là je ne le lis pas, Justus Jonas, c'est le parrain qui a donné d'Edith Johanni Lutero en 1526. Hein, bon, bah on fait ça comme on le faisait sans doute. Voilà Nuremberg vers 1570, magnifique vase avec des monnaies antiques qui ont été insérées dans un vase. Et on reproduit ça sur des tableaux. Voilà un détail d'un tableau qui représente un prince de la Rhénanie. Et on a reproduit ce vase qu'il tient à la main et qui est décoré exactement de monnaies. Alors, on ne sait pas trop si elles sont antiques, mais il y a de fortes chances pour qu'elles soient antiques. j'ai pas fini. Je voulais vous montrer aussi la présence des monnaies dans l'architecture. Ici, des médaillons sur toute une série de châteaux. Alors, c'est peu connu, parce que si vous voulez, quand on fait de l'architecture de la Renaissance, on ne va pas s'attarder trop longuement sur des choses qui ressemblent à des monnaies. C'est un peu rasoir. Mais il y en a partout, en Italie, en France, en Allemagne, des médaillons qui s'inspirent directement des monnaies qu'on a sous la main, qu'on transporte. Là, c'est un... Ça a des chances d'être de l'atelier de Della Robbia. Et vous en avez pas loin d'ici. Alors ça, c'est à Naples. À Naples, vous avez un portrait de Trajan dans le Castello Nuovo. Et vous en avez pas loin d'ici, puisque ça, c'est à Ouaron. À Ouaron, il y a une série... Alors ma photo est très, très mauvaise. Je l'ai tirée de l'ouvrage sur le château d'Ouaron. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'à Ouaron, c'est du début de la première moitié du XVIe, c'est pour le grand écuyer que ça a été fait. On pense que ça a pu être fait par des sculpteurs italiens, les Justes en particulier, on pense. Et ce qui est amusant, c'est que l'un des premiers médaillons, c'est Mahomet. Mahomet II, le sultan. Pourquoi ? Parce qu'on est en France et qu'on est les alliés du grand Turc. Donc, il a sa place parmi les empereurs romains. Alors, il y a des portraits dont on voit qu'ils ont été tout à fait tirés de la numismatique. Il y en a d'autres où on s'est un peu trompé. Et il y a les noms à côté. Si vous allez dans la cour du château d'Ouaron, vous regarderez d'un œil nouveau ces objets. Je vous ai dit beaucoup de choses. Alors, l'influence antique sur les monnaies du XVIe siècle, les monnaies ou les médailles. Eh bien, voilà, je vous disais, Charles Quint, c'est le successeur des empereurs romains. Ben, voilà, un portrait monétaire. Et puis derrière, vous voyez quelque chose qui est tout à fait à la romaine, avec une légende romaine. Ici, un personnage assis avec une patère à la main, puis l'empereur, il a une couronne de laurier. Alors ça, c'est assez fréquent. Voici une médaille. Alors là, évidemment, quand les graveurs italiens s'en mêlent, voilà une médaille magnifique où l'empereur est représenté avec la couronne de laurier. Évidemment, il a une cuirasse qui est moins romaine, mais l'esprit est quand même là. Ces cuirasses d'apparat étaient sculptées, enfin, été modelé, moulé, tout ce que vous voulez. Henri II, voilà un double Henri d'or d'Henri II, avec, pour légende, Gallia à l'exergue, la France, et la formule Optimo Principi, qui est directement empruntée au monde romain, puisque c'était le titre de Trajan. Et vous voyez la représentation de Gallia, assise sur des armes, avec un casque, et qui tient une victoire dans la main qui la couronne. Ça pourrait être romain, c'est un peu moins, les Romains auraient fait mieux, mais et puis on va aller, ça vous ne devinerez jamais ce que c'est Olivier Cromwell qui est habillé à la romaine avec une couronne de laurier, et c'est un très beau portrait. On continue. Voilà, alors les médailles de la Renaissance, vous avez des choses, ça c'est... Alors, il y a des artistes aussi, de très grands artistes, qui ont fabriqué des médailles. Ça, c'est Pisanello. Bon, c'est pas tout à fait à l'antique, parce que là, on a quand même quelqu'un qui a une cuirasse, une armure, qui n'est pas tout à fait à l'antique. Mais Pisanello, on sait, je n'ai pas le temps d'approfondir, mais il y a des peintres italiens et des sculpteurs qui avaient des monnaies antiques, dont on sait que à leur décès, on a retrouvé des collections de monnaies antiques. C'est à peu près tout. Alors, simplement pour terminer, je voulais vous dire que, bien sûr, il y a des pans entiers de la monnaie qui n'ont pas intéressé les gens de la Renaissance. Par exemple, les monnaies gauloises, vous pensez bien, quand on trouvait des choses comme ça, c'était sans intérêt. Il a fallu attendre le 19e siècle pour s'y intéresser. On a même pensé longtemps... Alors voilà, par exemple, un extrait d'un traité qui a été consacré à une découverte de monnaies en Allemagne du Sud. C'était des monnaies qu'on appelait les petites coupelles de l'arc-en-ciel. C'était des monnaies dont on sait qu'elles sont gauloises. Mais à l'époque, ça donnait lieu à un petit rituel. On pensait qu'on en trouvait au pied des arc-en-ciel. Ça, ça vous rappelle peut-être des choses, parce que là, la petite histoire est passée aux États-Unis et se retrouve dans certains comics, hein, où l'oncle Picsou va recueillir un chaudron plein d'or au pied d'un arc-en-ciel. Eh bien, c'est une légende germanique, et les petites cupules en question, elles servaient dans la médecine populaire pour soigner les enfants. On mettait des médicaments dans ces petites cupules, et puis on leur faisait boire. Enfin, c'est un truc magique. Hein. Et pendant longtemps, on a cru que c'était des choses vikings ou musulmanes, etc. Puis maintenant, on sait parfaitement que ce sont des monnaies gauloises. Je vous en montre juste une comme ça. Hein. Ça ne dit pas grand-chose. Il y a une espèce de couronne sur la périphérie. On ne pouvait pas comprendre ce que c'était. On ne pouvait pas comprendre ce que c'était que ça. À l'époque, bien sûr. Alors, peu à peu, je vais m'arrêter, peu à peu, en tout cas dans le domaine de la numismatique grecque, de la numismatique romaine, on a commencé à constituer des cabinets considérables. Et les souverains, si on se tourne surtout vers la France, mais pas seulement, les souverains ont constitué des cabinets, d'abord dans le cadre de la collection, les cabinets de curiosité. Il n'y a pas un cabinet de curiosité qui n'a pas des monnaies. Donc il y a une partie dans les artificialia, il y a une partie monnaie, mais les rois de France, par exemple, ont constitué des cabinets. Alors comment faisait-on? Eh bien, Catherine de Médicis a eu un cabinet de monnaie qui a été dispersé, on l'a reconstitué, Henri IV l'a repris, et alors Henri IV a salarié un personnage pour reconstituer ce cabinet. Alors il avait toute liberté, on lui donnait tout l'argent qu'il voulait, il avait des correspondants dans toute la Méditerranée, y compris dans l'Empire turc, et on rapportait comme ça des monnaies de loin qui étaient achetées à grand prix, hein. Et les empereurs aussi, dans le cabinet, pour prendre un exemple illustre, le cabinet de curiosité du château d'Ambrasse près d'Innsbruck comportait une grande collection de monnaies, hein, l'archiduc de Tyrol, Ferdinand, avait rassemblé ça, le duc de Bavière, les fougueurs, les négociants les plus riches d'Augsbourg avaient des cabinets de ce genre. En France, eh bien, Henri IV a chargé un personnage qui s'appelait Pierre-Antoine de Rascasse de Bagaris d'aller chercher des monnaies au loin. Et puis, tous ces gens étaient en contact entre eux, ils s'échangeaient des monnaies. Il y avait aussi, je vais encore citer un nom, ce sont souvent des noms obscurs, mais celui-là, il mérite d'être cité, c'est Nicolas-Claude Fabry de Peresque à Aix-en-Provence, qui avait une collection absolument considérable, dont on a gardé les dessins et une grande partie de la collection. Il était considéré comme l'arbitre de la curiosité. Hein. Et donc ça a été en germe le début des cabinets royaux en France. Henri IV, cabinet des médailles, Louis XIV. Alors Louis XIV, il y a une chose très célèbre aussi. On voit Louis XIV jeune. Alors vais-je le retrouver? Oui, il est là. Il est là, c'est pas lui. Le voici. Voilà, le jeune Louis XIV ici, avec Jean Varin, qui était un graveur de médailles, et Jean Varin est en train de lui montrer une pièce antique. C'est Jean Varin qui a intéressé Louis XIV. Et Louis XIV, vous le savez, a passé son règne à faire frapper des médailles. Il y a eu des livres entiers sur la médaille à l'époque de Louis XIV, et à n'importe quelle occasion, il fait frapper des médailles, à l'antique, bien sûr, à l'antique. Je vous ai parlé de Peresque, le voilà, le brave Peresque, c'est pas Louis XIV, lui, hein. Mais qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore? Bon, ben voilà, des collectionneurs. Regardez les collectionneurs avec toutes leurs pièces là devant eux. Hein, bon, voilà. Alors, on va terminer. J'ai abusé du temps. Ça va encore. J'ai encore 5 minutes. Tenez, les collectionneurs, les tableaux. Il faudrait faire une thèse là-dessus. Enfin, ça ne nous mènerait pas très loin. Il y en a de nombreux. Voyez ce personnage inconnu, mais c'est un tableau de Memling qui leur présente. La reproduction est très laide, mais les couleurs sont très laides. Mais vous voyez, il tient une monnaie dans sa main, là. Il est très fier, hein, parce qu'il montre qu'il sait ce que c'est. Hein. Il sait lire la monnaie, et puis il a une collection. Hein. C'est sans doute un marchand flamand ou quelque chose de ce genre. Et donc, voilà. Également... Alors, aussi, voyons, je ne les retrouve plus. Ah oui, on est même allé. Alors, vous voyez, l'habitude était tellement prise de s'intéresser parmi les élites, en particulier, là, je parle d'exemples allemands, qu'en Allemagne, même au XVIIIe siècle, il y a une revue qui est apparue pour traiter des monnaies. Et même des monnaies contemporaines, c'est-à-dire des monnaies du XVIIe, du XVIIIe siècle. Et ça s'appelle Historischer Münzbelustigung, c'est-à-dire divertissement monétaire historique. Et dedans, il décide chaque mois de traiter d'un certain nombre de monnaies en racontant ce que ça dit, en faisant un commentaire historique. Alors il y a des monnaies antiques, mais il y a aussi des monnaies contemporaines, c'est-à-dire qu'ils font comme si ils traitent leur histoire et leur histoire monétaire comme ils traiteraient l'histoire monétaire du règne de Néron ou autre, vous voyez. Alors je vous ai dit, les empereurs se sont considérés comme les empereurs du Saint-Empire, se sont y compris, je pourrais longuement parler de Charles Quint. Quand Charles Quint vient à Rome, après l'expédition de Tunisie, on lui fait visiter Rome et on lui montre l'arc de Constantin, l'arc de Titus, en lui disant « ce sont vos prédécesseurs qui ont construit ça ». Et il est évidemment forcément passionné. Et bien entendu, on grave des inscriptions en latin qui sont des inscriptions comme à l'antique, hein, avec des caractères à l'antique. Bon, ben, quand le Saint-Empire va s'écrouler, on va avoir à la place, bien sûr, voici Napoléon. Ben, Napoléon, vous le savez, c'est pas si loin que ça, Napoléon. Napoléon, il a voulu apparaître comme un successeur aussi des empereurs romains. Hein, il avait Rome. Je rappelle quand même que dans l'Empire de Napoléon, Rome était chef-lieu de département. Et il se fait représenter avec sa couronne de laurier. Vous rappelez aussi, ça c'est une œuvre d'un Italien, hein, parce que bien entendu, on a repris les motifs à l'antique, et puis on représente Napoléon, il se fait représenter en statue aussi, comme Auguste. Il y a la nudité, Napoléon est plutôt flatté, en quelque sorte, dans la sculpture en question, mais il ressemble un petit peu à Auguste. Voilà, je m'arrête là, et je suis prêt à répondre à vos questions.
Merci beaucoup, on ne va pas te poser la question indiscrète. Combien en as-tu ?
De quoi ?
De monnaie.
Oh bon, je sais pas, mais je ne les collectionne pas, moi.
C'est
vrai ? J'ai pas l'esprit collectionneur, non. Non, parce que c'est trop... D'abord, parce que ça coûte une fortune. Et puis que c'est trop... C'est pas intéressant. Soit c'est intéressant, c'est qu'il y ait des collections publiques.
D'accord.
Qu'on peut consulter.
Les collections publiques, on les trouve dans les bibliothèques, dans les musées.
Ben on les trouve dans toutes les grandes... N'est-ce pas, en Allemagne, par exemple, ou en Italie, il y a des collections publiques dans toutes les villes où il y avait des princes. Alors, il y en a un petit peu moins en France. En France, c'est très centralisé. Tout ça, c'est... Mais à Londres, c'est le British Museum. Et puis Oxford et Cambridge, bien sûr, parce que là, il y a l'humanisme qui a joué. Dans toutes les petites principautés, petites ou grandes d'Allemagne, il y a des collections. Enfin, ce qu'il en reste, parfois... Et souvent, elles ont été extrêmement bien conservées, contrairement à certaines collections de musées français qui ont été parfois dans des musées qui étaient mal tenus, dilapidés, enfin, des choses de genre. Parce que ce sont des objets qui, par définition, sont mobiliers, circulent, donc ça va, ça vient, en quelque sorte. Hein. Mais la grande collection française est étonnante. Je vous invite à y aller. Il y a un musée du cabinet des médailles, parce que le cabinet des médailles n'est pas seulement... Ça se trouve rue de Richelieu, c'est pas sur le site Tolbiac, hein. C'est rue de Richelieu, c'est là où est l'Institut d'Histoire de l'Art, c'est là où se trouve Schnapp, tous ces gens, voilà. Parce que je pourrais citer évidemment tous les gens, parce que, je sais plus son prénom, Schnapp, c'est... Alain Schnapp parle beaucoup dans son livre sur la découverte, c'est comment le titre, je ne trouve jamais ce titre, la découverte de l'histoire, quelque chose comme ça. Il parle pas mal de monnaie. Il a beaucoup travaillé au cabinet des médailles, mais ça n'apparaît pas complètement parce que évidemment il y a les monuments, il y a les mégalithes, il y a toutes ces choses-là. Mais la monnaie est derrière parce que la numismatique est une discipline assez sévère et assez rigoureuse quand elle est à peu près bien faite. Hein, donc il y a une documentation et le cabinet des médailles, c'est aussi le cabinet des médailles et antique. Donc il y a un musée et vous y trouvez aussi le trône de Dagobert. Enfin, parce que on y a mis, c'est les rois. Hein, qui ont alimenté ce cabinet des médailles. Donc, alors si vous allez au musée en question, vous n'aurez pas accès forcément au cabinet lui-même, il faut montrer patte blanche, mais quand on y entre, il y a les grands médaillés royaux, on est dans les lambris, on est sous les portraits des rois, etc., hein, près de la rue Vivienne, enfin rue de Richelieu. Voilà, c'est un des grands endroits chargés d'histoire. C'est un lieu de mémoire. D'ailleurs, je me demande si dans le livre de Nora, il n'y a pas le... Peut-être pas le cabinet des médailles, mais au moins la Bibliothèque nationale de France, évidemment. Mais peut-être, il mériterait le cabinet des médailles.
Voilà. Donc, il existe aussi des foires de médailles, comme il existe des foires des timbres, des collections.
Ah oui, ah bah, tout à fait, tout à fait. Mais alors là, c'est une chose un petit peu plus triste parce que elles échappent aux spécialistes. Il y a un marché, bien entendu, et puis il y a aussi une manière clandestine de découvrir des monnaies avec des objets qui sont dont l'usage est théoriquement interdit. Mais il y a une grande vie de ces foires. Alors c'est intéressant parce que. C'est en partie intéressant d'y aller parce qu'on récupère de l'information, mais il faut se méfier parce que l'information est parfois faussée. Voilà. Mais il y a parfois des grandes ventes, il y a des publications. L'essentiel, c'est de publier aussi. Ces monnaies n'ont d'intérêt que par le savoir qu'elles nous apportent. C'est vrai qu'on s'obnubile un peu sur des objets qui, après tout, pourraient très bien disparaître dans le commerce, etc. Une fois que c'est publié, pesé, analysé, etc., si on a de bons documents, après tout, c'est pas si triste que ça. Le temps passe et la vie passe, mais il reste quelque chose. On va publier là très prochainement le trésor de monnaie celtique du Mans, qui a été trouvé par des particuliers, et c'est un gros trésor de monnaie d'or. L'article va être un apport considérable. Le trésor a été vendu. Voilà. Oui.
Il y a aussi vraiment ça là. Il y a aussi au cabinet des médailles, quand on entre à l'entrée, là, il y a tous les objets, des objets de collection qui sont exposés comme préalable, tu sais.
Oui, oui.
Et j'y ai vu des médailles qui sont d'une grandeur extraordinaire, qui font 15 cm, parfois presque 20 cm de diamètre.
Alors ça, je ne me rappelle plus, ça représente
mais
quoi
elles sont pas, je ne pourrais pas te dire ce que ça représente. Mais alors, ce qui me frappe, c'est qu'elles ne sont pas en métal, elles sont en plâtre, on dirait.
Ah oui, mais
et
ça.
Dans le cabinet de Nicolas Chevalier, sur lequel on avait travaillé, qui est un cabinet d'à peu près 1700,
oui.
Un cabinet un peu tardif, Chevalier a commencé par un commerce de médailles.
Oui.
Donc, de petites antiquités de façon générale. C'est quand même bien axé sur les médailles. Et
oui.
C'est beaucoup des médailles, des monnaies anciennes,
oui.
Et des monnaies contemporaines, et aussi des médailles qu'il fait frapper lui-même, c'est-à-dire sur des dessins qu'il invente.
Ah oui.
Et tout ça finalement est mis à plat et on se rend compte que pour les curieux, pour les collectionneurs, les unes valent les autres.
Oui.
C'est très curieux. Et alors, il représente, je ne sais pas si tu vois ces
images. Je ne me rappelle
images,
pas.
Je ne te rappelle pas. Donc sur le site à Curiositas, j'ai mis les images en question, il représente...
Ah sur Curiositas, ça y est.
Oui, sur Curiositas, il y a les gravures qu'il publie dans son premier recueil en tout cas. Donc les gravures qui correspondent à son premier cabinet de curiosité, mais alors de façon un peu stylisée, il choisit quelques éléments, il ne représente pas tout évidemment, mais il y a des séries comme ça de médailles qui sont énormes, qui sont vraiment très grosses. Et naïvement,
j'avais
pensé que c'était uniquement pour pouvoir représenter quelque chose, mais non, ça correspond vraiment à des tailles réelles.
Parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est que dès la Renaissance, on a des faux. En voici un. Parce qu'il y a des amateurs et il y a un marché. En voici un. Alors, ça, c'est une monnaie ou une médaille de bronze de l'empereur Othon. Alors, Othon, c'est un de ces empereurs éphémères de l'année 69, après la mort de Néron. Alors, son portrait est assez réaliste, mais c'est un faux. Alors, il y a écrit ici « faux » probablement du XVIe siècle. Et dans les collections, même les collections les plus modestes, il y a des monnaies d'Othon en bronze. Ça a 90 chances sur 100 d'être des faux. Parce que Othon a régné très peu de temps. Et on a. Alors, il y a des faussaires célèbres en Italie. Il y en a un qu'on appelle le Padouan, qui était originaire de Padoue. On ne connaît pas son nom. Mais il y a des gens qui les collectionnent. Hein, c'est-à-dire qu'on a fait des monnaies à l'antique, des médailles à l'antique. Parfois, on a inventé des types, vraisemblables, par exemple. Et certains grands collectionneurs se sont fait refiler des faux. Voilà. Et ça existe toujours, cette activité. Enfin, elle a été. Jusqu'au 19e siècle, enfin une partie du 20e siècle, il y a des faux comme ça qui sortent. Par moulage, par moulage, ça se voit tout de suite. Ça, c'est un faux frappé. Hein. C'est un magnifique portrait.
Le portrait, surtout masculin, le portrait féminin, si je puis dire, c'est symbolique ou il y a Cléopâtre là, c'est quelqu'un de très connu.
Oh, il y a aussi des.
La liberté, etc. C'est
aussi...
plus symbolique, il y a plus de représentations masculines.
Il y a aussi des impératrices. Hein.
Oui.
Il y a aussi des impératrices, je n'ai pas tout montré. Et puis, sur la monnaie antique, sur les monnaies antiques, il y a aussi des impératrices. Et puis, évidemment, les allégories féminines sont innombrables. Alors là, je n'ai pas le temps parce que. Toute la symbolique moderne, enfin une grande partie de la symbolique moderne, s'enracine dans la symbolique antique. et puis développe ça, hein, décline tout ça avec ces motifs en dessus de pendules, hein, qu'on a jusqu'au XIXe siècle, avec des personnages. Les Romains, à la suite des Grecs de l'époque hellénistique, inventaient des divinités à tour de bras, des concepts, des abstractions divinisées. Enfin, ça avait commencé très tôt avec la victoire, hein, la victoire qui est ailée, bon. Mais en même temps, on a, bah, je vous ai parlé de l'Uberitas. Hein, alors l'Uberitas, c'est très simple, parce que Uberitas, ça vient de... Alors on prend une femme qui est habillée de façon... quand, même à l'époque du Bas-Empire, on la représente comme au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hein, bon, y a un vêtement mythologique. Et puis, ce sont les attributs qui permettent de l'identifier. Alors ces femmes sont un peu interchangeables. Quand il n'y a pas le nom tout autour sur la monnaie, on ne sait pas ce que c'est, parce qu'elles ont toutes des cornes d'abondance, elles sont plus ou moins de l'abondance ou pas. Alors l'Uberitas, c'est très particulier, parce que c'est une femme qui tient un paquet à la main, et en fait, ce paquet, ce sont des ubera. Et c'est l'étymologie du mot uberitas, ça veut dire des pies de vache. Parce que les pies de vache sont une image de l'abondance. Voilà. C'est comme ça.
Ce lien-là, il est très évident dans des bouquins. J'ai vu que tu l'avais dans ta réserve. Là, oui. Tu l'as montré, le bouquin de Sambucus.
Sambucus.
Qui est un livre d'emblème qui se termine par un recueil de...
Alors, Sambucus, c'est un Slovaque.
C'est un Hongrois.
Oui, Slovaque, plus ou moins, je ne sais plus. Il est là. Je ne sais plus où il est.
Avec les traités,
voilà, c'est ça. Et il est là. Sambucus, voilà.
C'est ça, emblemata.
Voilà. Emblemata. Et vous avez là, alors, vous voyez, toujours le cercle parfait et puis les figures féminines tout autour. Et aussi, là, voilà. Là, c'est relativement fidèle. Alors, vous avez même des monnaies. Voilà une, alors, qui est rare avec la légende en grec, parce qu'il y avait des monnaies de la partie grecque de l'Empire, des monnaies locales, et puis la représentation d'Orphée au revers. C'est un véritable médaillon, hein, puis il y en a plein d'autres comme ça. Et on commence, il y a des savants qui commencent à faire des commentaires. Alors, c'est vrai que tout ça est oublié aujourd'hui, en grande partie oublié, parce que un peu comme dans l'histoire des sciences, pendant longtemps, et on n'en a pas vraiment complètement besoin, parce que sur des monnaies comme ça, on ne peut pas, ça n'est pas une preuve qu'elles aient vraiment existé. On ne peut pas les retrouver parce qu'elles sont régularisées, etc. C'est à partir du moment où on va dessiner des monnaies de façon beaucoup plus réaliste, avec les défauts et tout, puis avec la photo, bien entendu, qu'on va pouvoir faire des cartes d'identité, enfin, la carte d'identité d'une monnaie. S'il y a des monnaies qui se baladent comme ça, de vente publique en vente publique. Mais là, pour ça, ce n'est pas très, très, très utile. Et pendant longtemps, on ne s'est pas cassé la tête. Alors voilà, je n'ai pas eu le temps d'apporter aussi, dans la littérature, on a plein d'allusions, enfin plein. Pas tant que ça, à vrai dire. Sur la curiosité, par exemple, au XVIIe et XVIIIe siècle, on s'intéresse beaucoup plus aux collectionneurs de tableaux, etc. Mais il y a évidemment la Bruyère. Il y a évidemment la Bruyère. Je ne me rappelle plus le nom de son numismate, qui est caricaturé, où il dit que... C'est un nom à l'antique qu'il lui a donné. Il dit qu'il s'intéresse aux flous, aux frustes, aux fleurs de coin. Hein, il est complètement malade, quoi. Il cherche à remplir l'alvéole, enfin le trou qui manque, quoi, parce qu'il n'en dort pas, quoi, etc. Et puis il ne vous parle que de ça, quoi, bien entendu. Il y a un passage très savoureux. Mais je ne connais pas beaucoup d'autres, hein, sur la numismatique. Alors... En ce qui concerne Louis XIV, je rappelle aussi que quand Louis XIV fait frapper des médailles, il a créé aussi, pour ces médailles et pour les inscriptions publiques, l'Académie des inscriptions et belles-lettres. C'est pour avoir dans cette académie des gens qui non seulement étudient les inscriptions antiques, mais en fabriquent des inscriptions à l'antique, parfaites en latin, etc., etc. Donc il y a toute l'histoire métallique. Il y a un livre qui s'appelle « L'histoire métallique du règne de Louis XIV ». Où Louis XIV, alors, est un empereur romain, ça trompe personne parce qu'il a une perruque terrible. Mais derrière, vous avez toutes les allusions à toutes les guerres de Louis XIV, bien sûr.
C'est le père Ménestrier qui fait ça?
Oui, c'est ça, c'est le père Ménestrier. Non, c'est pas le père. Non, ça c'est un livre. Là, c'est un livre officiel. Alors le père est ménestrier, c'est dans le dictionnaire de... Non, c'est dans les... Ah, Trévoux. C'est dans les... Non, c'est dans le Mercure de France qu'il publie pas mal de choses, père ménestrier. Et il s'intéresse au blason, il s'intéresse à tout, puis il s'intéresse bien sûr aux médailles. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des jeunes qui se passionnent pour la numismatique ou il y a...
Oui, ça existe, je crois, oui. Mais ils ont pas, à vrai dire, l'art de la collection aujourd'hui est un petit peu différent, quoi. La monnaie, les monnaies antiques, c'est pas très difficile à trouver. Il y en a qui se trouvent chez les brocanteurs et pas cher. Alors il y a des gens qui ramènent des monnaies de leur voyage à l'étranger, ils se font refiler des pièces fausses, c'est pas la peine, il y a des pièces vraies, voilà. Il y en a qui coûtent pas très cher, et puis c'est quand même plus émouvant que les timbres, c'est moins récent. Mais les timbres eux-mêmes comportent des tas de petits problèmes et petits rébus parfois. Mais la monnaie elle-même, puis il y a des portraits, enfin vous avez vu... Alors on peut pas collectionner les pièces grecques que je vous ai montrées, hein. Ça c'est des fortunes. Surtout dans cet état-là. Ce que l'on retrouve, mais ce peut être intarissable là-dessus, les monnaies telles qu'on les retrouve, c'est dans les trésors qu'elles sont des chances d'être en très bonne conservation. Les monnaies qu'on trouve en fouille, il faut bien se rendre compte que ce sont les monnaies qu'on n'a jamais récupérées ou qu'on a jetées. Donc ce sont des monnaies très usées. Ce sont souvent des fausses monnaies. Les deniers d'argent romain que l'on trouve, il y a à peu près 90% des deniers qui sont des faux deniers, c'est-à-dire des deniers qui étaient en argent mais sur une âme en cuivre. Alors quand vous vous êtes servi pendant un certain temps de ces monnaies, ça se perce, on voit le cuivre apparaître, puis là vous ne pouvez plus refiler la monnaie à personne, donc on la jette. En revanche, on peut trouver dans les ruines de Thermes des monnaies d'or ou autres que les gens ont perdues en se déshabillant. On les retrouve dans les tuyauteries. Des bijoux aussi.
Les faits divers, un agriculteur qui est en train de moissonner, il trouve un trésor. Alors,
non, il voit rien parce qu'il est.
D'un point de vue juridique, ça se passe.
Non, il voit rien parce qu'il est dans son tracteur, dans la cabine, et il voit plus rien.
D'accord. Bon.
Mais bon, en admettant qu'il soit divers, à pied derrière sa charrue, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, s'il trouve ça donc par hasard, parce qu'on n'a pas le droit de creuser pour trouver. D'accord. Déjà, s'il le trouve sur son champ qui lui appartient, il garde le tout. La législation française est très simple. Il y a l'inventeur et le propriétaire. Le propriétaire du terrain et l'inventeur. L'inventeur, c'est celui qui trouve. Donc l'inventeur, lorsqu'il découvre, d'abord il doit le signaler. Ça, c'est une législation pour nous, pour les spécialistes, etc., pour permettre l'étude. Et c'est 50-50. Ce qui fait que quand quelqu'un fait des recherches clandestines avec des instruments sur lesquels je ne m'étendrai pas, sur le terrain de quelqu'un qui ne l'a pas prévenu, il lèse la personne. S'il trouve quelque chose, il lèse la personne, évidemment, en termes de droit. Du point de vue scientifique, il fait un trou, il détruit le contexte, etc., etc., etc. Donc c'est une pratique détestable, mais il n'empêche que les détecteurs en question, il y a des revues entières dans les kiosques avec des gens qui disent « j'ai trouvé ça, qu'est-ce que c'est ?» Ils donnent la photo. Je les soupçonne souvent de dire qu'ils ont trouvé ça dans un endroit qui est faux. Donc c'est pas un instrument, c'est vraiment un vrai problème, mais que personne ne songe à résoudre parce qu'on peut pas. Parce que la technique est là. Moi, je peux vous donner un exemple. J'ai fait passer dans une revue internationale de numismatique une annonce pour demander des renseignements sur les monnaies pictones. La seule réponse que j'ai eue, c'est un clandestin. Donc je me suis rendu compte qu'il connaissait tous mes travaux. Et alors il cherchait un peu à se dédouaner. Alors du coup, comme je travaille pas pour la police... je ne l'ai pas dénoncé, c'est pas mon boulot. Et très vite, j'ai pris des moulages, il m'a emmené dans des endroits invraisemblables, il n'y avait pas de lumière, c'était pas chez lui, etc. Et puis j'ai pris des moulages, je lui ai fait faire des photos, j'ai ça chez moi, il y a des choses inédites, il y a des choses gauloises inédites, je ne sais pas comment je les publierai sans doute un jour. Et puis j'ai plus aucune relation avec lui, parce qu'un jour il a voulu que je le parraine pour entrer à la Société française de numismatique. Alors j'ai dit, il ne faut quand même pas charrier. Et il y en a plein. Et je crois qu'il n'est pas, pas conscient. Je lui ai dit, vous savez, c'est interdit. Il m'a dit, non, mais je ne fais pas de mal. Je crois qu'il ne les vend pas. Il s'intéresse. il fait passer des annonces sur Internet, il y a des sites, hein, il fait passer des annonces où il dit « Je m'intéresse à tout renseignement, extrait de presse sur ceci. » Je crois qu'il est un peu faux naïf, enfin, qu'il, à mon avis, il doit se débrouiller quand même. Mais voilà, il faut faire avec. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans les grandes collections nationales, à la Bibliothèque nationale, il y a une collection de monnaie gauloise considérable qui n'est pas publiée. Qui est publié, la dernière publication date de 1893, sous forme de dessin. Il y a un atlas qui est fait de dessin, on n'a pas de publication moderne avec des photos. Mais ces collections ne sont pas complètes. Moi, je connais quelqu'un qui, en Anjou, a publié, qui fréquente les marchés numismatiques, il a publié une monnaie sur laquelle il y a écrit le nom des Andécaves, c'est-à-dire le peuple gaulois, inédite. Il a 7 provenances. Il a pu cartographier 7 provenances qui correspondent à l'Anjou. Les collections nationales françaises ne les ont pas. Parce que les collections nationales comportent des monnaies. Les grands collectionneurs se sont intéressés, par exemple, à des belles monnaies, des monnaies d'or, des monnaies d'argent. Mais il y a toutes les séries de cuivre, de bronze, etc. qui sortent tout le temps. Et les archéologues eux-mêmes, qui ne sont pas toujours formés, qui demandent à des spécialistes, eh bien, quand ils ont des monnaies qui sortent de leur chantier, ne savent pas les identifier. Parfois, ce sont des monnaies non identifiables parce qu'elles sont extrêmement corrodées. Et une des règles de l'archéologie, ça devrait être, sur tous les chantiers qui ont lieu à droite à gauche, d'obliger à la restauration de ces pièces pour permettre leur identification. Alors, il y a des monnaies, parfois, le spécialiste peut dire, ça, c'est du IIe siècle à cause de la forme, quand elles sont très, très usées et oxydées. Le spécialiste peut le dire, mais parfois, un non-spécialiste, il dit, bah, il y avait des monnaies. Voilà. Enfin, il n'a pas besoin des monnaies pour dater, il n'a pas toujours besoin uniquement des monnaies pour dater, mais c'est un peu dommage, évidemment. Alors, le musée, il y a des trésors. Le musée de Nantes vient d'acheter un trésor de 45 000 monnaies du IIIe siècle. Mais c'est un peu épouvantable, parce qu'il y a des séries de 3 000 monnaies identiques là-dedans. Alors, on a un pot, un énorme vase, et on a fouillé le vase. On a découpé le vase et on a fait de la stratigraphie du vase pour savoir ce qu'il y avait dans le fond, ce qu'il y avait au-dessus, comment le type avait économisé, etc., etc. Je trouve, parce que j'ai l'expérience de l'étude des trésors, je n'en ai jamais étudié qu'un dans le détail, il faisait 900 monnaies et je ne referai plus, que c'est un énorme effort pour un résultat scientifique, parfois, mais enfin bon, après tout, voilà. Et ça, c'est le musée de Nantes qui... Ben oui. C'est jamais ce qu'on trouve. Mais s'il fallait acheter tous les trésors qui se dégagent. Voilà, absolument. Absolument. Donc, c'est affaire de hasard ou de personne intéressée à ce moment-là qui dit voilà. Et c'est le cas d'ailleurs à Nantes. Il y avait quelqu'un qui était parfaitement conscient de la valeur de cet objet. Mais en revanche, on ne sait pas pourquoi le type est mort sans récupérer son magot. On ne sait pas pourquoi, etc. Simplement, on a un état de la circulation à un moment donné. Dans toutes ces monnaies, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Mais on en a des dizaines et des dizaines de ces trésors, des centaines même, dont beaucoup ont disparu sans être étudiés ou n'étant étudiés en partie. Puis après, une fois que c'est dans un musée, il faut savoir le présenter. 45 000 monnaies, vous n'avez pas présenté le tout. Alors, il y a un très beau musée pour ceux qui s'intéressent à la numismatique. C'est le musée d'Eauze, dans le Gers. Eauze, c'est une petite ville qui a été capitale de peuples gaulois et de cités gallo-romaines. Et on y a trouvé, un certain nombre d'années, un énorme trésor avec des bijoux aussi. Et ça a été acheté. Et un musée a été créé dans cette toute petite ville, un musée monétaire, très bien fait. Et toutes les monnaies sont présentées. Alors, il faut y venir avec une loupe. Enfin, il y a des loupes, il y a des trucs, il y a des éclairages, il y a tout ce qu'on veut. Puis les bijoux aussi. Et il y a tout le discours autour. Puis elles ont été publiées dans un très beau, très bel ouvrage. On ne peut pas faire ça pour tout.
Merci beaucoup, Jean-Yves Renard.
De rien.
Au revoir.
Donc, la prochaine conférence est le 5 novembre.